deux feuilles, quatre pages que vous avez dû prendre à l'entrée. Je vous rappelle en fait que cette matinée d'aujourd'hui est la deuxième d'un tout. Alors la plupart d'entre vous étaient là en février dernier quand nous avions eu la première rencontre. Si certains d'entre vous n'étaient pas là ou n'ont pas encore pu l'écouter, donc les enregistrements sont accessibles librement sur le site, donc vous pouvez tout à fait les écouter, les réécouter. Et puis je signale aussi qu'il me reste, que j'ai gardé précieusement de la dernière fois, quelques feuilles de la première rencontre, donc il doit en rester 5 ou 6. Donc si ceux qui n'étaient pas là veulent avoir des papiers imprimés, n'hésitez pas à les... il y a 6 pages, hein. N'hésitez pas à les prendre. Tous ceux qui étaient là, vous les avez eus. Donc c'était deux samedis qui forment un tout. Donc je vous rappelle très très rapidement un petit peu ce qu'on avait vu la première fois. Et puis nous allons poursuivre. Donc ce que nous avions vu en première partie, je vous avais rappelé évidemment l'actualité. C'est pas difficile à comprendre. Hein, l'actualité ecclésiale et sociale de ce thème dont on parle tant. Et notamment l'insistance du pape François et les efforts concrets qu'il met déjà en œuvre pour donner une voix plus forte, valoriser les missions des femmes au sein de l'Église. Je vous avais aussi rappelé, je le redirai encore aujourd'hui, la nécessité pour nous, pour les chrétiens, hein, de regarder cette question dans un regard de foi et pas d'abord dans le regard... justement social, laïque, qui est celui de notre monde, et de le regarder vraiment dans la lumière de la révélation et de la foi. Et donc c'est ce qu'on avait fait spécialement la fois dernière, où nous avions pris le temps de replonger dans la Genèse, de regarder dans la foi, hein, le dessein de Dieu sur l'homme et la femme tel qu'il nous est révélé, dès la Genèse, avec la création d'Adam et Ève tirés de l'homme. Et puis, je vous avais rappelé un petit peu vite aussi comment l'analogie des noces, l'homme et la femme époux, était l'analogie la plus fréquemment utilisée dans le langage biblique. Alors, on le trouve dans les prophètes, notamment, mais jusqu'au terme de la révélation, dans l'Apocalypse, hein, pour dire les relations de Dieu avec l'homme, de Dieu avec son peuple, hein, Dieu époux d'Israël, épouse de son Créateur, de son Dieu. Donc on avait rapidement mentionné quelques passages, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, vous avez le début du livre d'Osée, quand Dieu s'adresse à Israël comme son épouse infidèle, qu'il va conduire au désert pour reconquérir son cœur. Vous avez Isaïe 54, hein, ton épouse et ton Créateur. Vous avez Ézéchiel 16, cette petite fille abandonnée à la naissance dans un champ et que Dieu va recueillir, dont il va prendre soin, qu'il va éduquer, élever jusqu'à l'âge des amours et qu'il va épouser. Donc ce thème nuptial, cette analogie des noces humaines, est utilisé dans toute la révélation pour dire l'alliance, pour dire le lien de Dieu avec l'homme, avec son peuple, avec l'Église. Et le Nouveau Testament assume et prolonge encore cette métaphore nuptiale. Pensez à Éphésiens 5, hein, le Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle afin de se la présenter à lui-même, cette Église, comme une épouse, sainte, immaculée, sans tache, resplendissante. Et puis, jusqu'au terme de l'Apocalypse, avec la Jérusalem nouvelle qui descend du ciel de chez Dieu, parée comme une épouse pour les noces, hein, les noces de l'agneau. Donc un thème qui est vraiment un fil conducteur et qui doit aussi rester dans notre pensée, dans notre réflexion, pour comprendre, j'allais dire, jusqu'au bout, dans la foi, hein, dans un regard de réflexion théologique, la place de la femme dans le mystère chrétien. Donc vous comprenez qu'on ne peut pas parler de la femme sans parler de l'homme. Dès qu'on parle de l'homme sans la femme ou de la femme sans l'homme, on passe à côté du dessein de Dieu. Donc on avait vu, notamment dans la Genèse, les récits de la création, et puis rapidement le chapitre 3 de la Genèse avec le récit de la chute, nous avions déjà dégagé quelques aspects principaux, quelques visages de cette vocation de la femme, Ce n'est pas exhaustif, mais je rappelle rapidement quelques points essentiels. On avait vu que la femme, elle est créée de la chair vivante du côté du cœur d'Adam. Elle n'est pas façonnée de la terre, puis insufflée de la laine de vie, hein, comme nous le voyons pour la création de l'homme dans le deuxième récit, mais elle est créée de la chair vivante de l'homme, hein, déjà animée du souffle de Dieu. C'est avec elle qu'apparaît dans le monde la relation. Tant que l'homme est seul, hein, on voit ce pauvre Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide, je vous avais rappelé le sens du mot, hein, ézer en hébreu. Une aide, c'est vraiment un secours divin. Ce n'est pas une aide domestique, vous voyez, pour faire le ménage, c'est un secours donné d'en haut. Je vais lui faire une aide, un secours, c'est-à-dire quelque chose, quelqu'un d'absolument nécessaire pour qu'il puisse être pleinement lui-même. Tant qu'il est seul, il y a quelque chose de son humanité, et pas seulement quelque chose, mais le principal de son mystère humain qui ne peut pas se vivre. Et le principal, c'est quoi ? C'est le face-à-face humain, c'est la relation, c'est la relation d'amour, c'est la communion, et donc la fécondité. Tant que l'homme est seul, il est déjà dans l'intimité avec son Dieu, il est déjà dépositaire de la création, mais ce qui ne bat pas encore, c'est son cœur fait pour l'amour. Et quelque chose de la vocation humaine qui ne peut s'épanouir que dans la communion et dans le don. Un autre, semblable à lui, et pourtant différent. Il faut imaginer, voyez, dans ces récits de la création, Adam se réveillant de sa torpeur dans laquelle Dieu l'avait plongé, et voyant pour la première fois, pas seulement le visage d'Ève, mais un visage humain. Adam apprend par le visage de sa femme à quoi lui-même ressemble. Je crois qu'il n'y avait pas de miroir au paradis. Il ne s'était jamais vu se voir dans un autre, dans une autre, égale à lui en dignité, et pourtant différente. Il faut, pour la communion, il faut les deux. Hein. Une égalité, homme et femme, il les créa à son image et à sa ressemblance. Ça, c'est le premier récit, hein, qui insistait sur... c'est Genèse 1, 26, 27, qui insistait sur l'égale dignité, tous les deux créés ensemble, dans un unique regard créateur de Dieu, à son image et à sa ressemblance. Et le deuxième récit, qui est en fait le plus ancien, on l'avait vu, hein, Genèse 2, qui lui va insister sur la communion qui naît grâce à l'altérité. Oui, ils sont égaux en dignité, tous les deux images de Dieu, et en même temps, alors c'est tout, je ne reprends pas tout ça, on n'aura pas le temps, sinon, hein, en même temps, la femme, elle est créée comme Isha, tirée de Ish. Donc vous voyez, ils sont semblables et pourtant différents. Tous les deux images de Dieu, et pourtant il y a quelque chose de ce que je suis qui ne m'est révélé que dans le face-à-face avec l'autre. Et donc la femme, première lumière que nous donne la révélation, la femme, elle est créée de la chair vivante du cœur de l'homme. Donc c'est par elle, hein, que la solitude de l'homme est abolie, c'est par elle que naît la relation, la fécondité. Et donc l'homme masculin, garde dans son cœur un manque, un creux. On lui a pris quelque chose, vous voyez, il n'est pas complet sans elle. Donc il y a un appel dans le cœur de l'homme que seule la femme peut combler, peut humaniser, peut rendre fécond. Donc la femme révèle à l'homme son visage d'homme. Tant qu'elle n'est pas créée, la création entière n'est pas achevée. Ça, c'est ce que nous montre le deuxième récit. La création de la femme comme couronnement, achèvement, accomplissement de l'œuvre créatrice. Seulement après la création de la femme, Dieu se reposa de toute l'œuvre qu'il avait faite. Après cette exclamation, et Dieu vit, et cela a été très bon, très bon. Donc elle est créée de la chair vivante du cœur d'Adam. En même temps, elle naît pleinement elle-même dans cette mission de communion, de relation, que si elle a l'humilité de se recevoir de l'homme, de se reconnaître tirée de lui. Donc on avait vu ça aussi. Hein. Adam, d'une certaine manière, est son prêtre. Il y a une médiation de l'homme par rapport à la femme pour lui transmettre la parole de Dieu. C'est Adam qui a reçu le commandement et qui était responsable d'en assurer la transmission à Ève. La parole de Dieu passe par lui. Il est aussi le célébrant. On avait vu les premiers mots qui nous sont dits dans le premier récit de la Genèse pour parler de l'homme et de la femme. En fait, c'est mâle et femelle. Hein. C'est pas l'homme et la femme au départ. Ils sont décrits comme mâle et femelle. Et Zakar, l'homme, hein, le mâle, c'est aussi le célébrant, celui qui fait mémoire des hauts faits de Dieu. Donc, dès le premier récit de la création, l'homme masculin nous est présenté comme celui qui a un rôle de célébrer le mémorial. Et Nekeva, c'est cette mission d'accueil, d'hospitalité, l'écrin, le creux, le réceptacle. Donc, tout ça, on avait vu. Deuxième lumière, elle est évidemment porteuse de vie. Non seulement elle est créée de la chair vivante d'Adam, mais en plus, c'est elle qui va porter la vie, c'est elle qui va mettre tout homme au monde, hommes et femmes. Tout homme naît par la femme. Donc il y a évidemment dans la vocation de la femme un mystère de vie. Alors même si notre monde d'aujourd'hui fait tout pour mettre ce mystère de vie et de maternité à l'écart, il est indissociable du mystère féminin. Porteuse, protectrice de la vie, pas seulement pour donner naissance, mais évidemment avec toute l'œuvre d'éducation, de croissance qui accompagne ensuite l'enfant après sa naissance. Et puis on avait vu qu'elle était créée en Éden. L'homme, lui, Dieu va le mettre dans un jardin planté pour lui et puis lui dit, vas-y, maintenant. La femme, elle est créée dans ce jardin d'Éden déjà existant. Elle a une familiarité avec Éden, avec Dieu, avec le monde spirituel, par nature. Elle est comme naturellement plus proche de Dieu. Comme naturellement, en tout cas, plus encline à s'approcher de Dieu, à s'intéresser au monde spirituel. On comprend pourquoi le serpent va s'adresser à elle. C'est pas d'abord parce qu'elle est faible, c'est d'abord parce qu'elle va s'intéresser à la promesse du serpent. Adam, il est occupé avec ses tomates et ses laitues, et ça prend du temps de cultiver un jardin. Et voilà que quelqu'un vient me parler de vous serez comme des dieux. Vous voyez, il y a quelque chose tout d'un coup, j'allais dire, l'intérêt spirituel du cœur de la femme est éveillé par cette parole fausse, qui recèle une part de vérité, bien sûr, c'est toujours ce que fait le serpent. Il promet quelque chose, mais voilà, c'est la parole, il utilise la parole de Dieu, mais c'est faussé. Donc elle a aussi comme vocation d'éveiller chez l'homme le lien avec Dieu, chez l'enfant notamment. On le voit bien, toute cette dimension d'éveil à la foi, d'éducation à la prière du tout petit. Et pas d'abord par son enseignement et ses paroles, mais premièrement par sa vie. Voilà, en gros, on avait vu ça la dernière fois, je passe sur certains points. Aujourd'hui, vous aurez remarqué que nos pauvres samedis du studium sont amputés d'une heure de temps. Donc on n'a plus que 2h30 au lieu de 3h30. Donc aujourd'hui, je voudrais faire deux choses. D'abord, dans la première heure, en gros, je voudrais dresser avec vous un panorama un peu historique des différentes vagues du féminisme. Il faudrait tout de suite dire des féminismes. C'est des étapes très marquées qui ont presque des revendications opposées. Alors on met tout en général sous le nom de le féminisme, mais il faudrait regarder ça en détail de plus près. Donc on va faire ça, et puis ensuite, je voudrais regarder, j'avais un petit peu commencé ça la dernière fois, comment la femme est appelée, en fait, par vocation, à être icône de l'Église et de la vocation chrétienne de tout baptiser, hommes et femmes. Donc vous avez sur la feuille de route, si vous regardez la première page, donc panorama des féminismes. trois grandes étapes, hein, le 1, 2, 3, le féminisme libéral égalitaire, le féminisme de la différence et le féminisme postmoderne, avec quelques citations. Je commence par cet aspect-là. Le féminisme est né en Europe. C'est pas un hasard, c'est justement, et ça c'est très intéressant, parce que l'Europe c'est un continent chrétien, et qu'il fallait d'une certaine manière un terreau chrétien, c'est-à-dire pénétrer, vous voyez, de la révélation, de cette certitude que l'homme et la femme sont tous les deux égaux en dignité, créés à l'image de Dieu, pour qu'émerge, j'ai dit, une réaction forte, hein, revendicatrice, quand la dignité de la femme est bafouée. Justement parce que la révélation judéo-chrétienne, alors sortie des aspects très très réducteurs dans lesquels on enferme parfois certains textes, hein, mais la révélation judéo-chrétienne véhicule cette égale dignité de l'homme et de la femme. Et donc c'est en Europe, dans ce continent qui garde une conscience de cette égale dignité de l'homme et de la femme, que naissent les réactions contre les inégalités, hein, contre la domination de l'homme sur la femme. Alors, il est difficile de marquer d'une date très précise le début du féminisme moderne. Ce qui est sûr, c'est qu'on le voit déjà émerger fin 18e, surtout au 19e. On voit peu à peu apparaître sur le devant de la scène des femmes, notamment par l'écriture, les femmes écrivains, le talent littéraire, le talent d'organisation, la parole, hein, des femmes qui acquièrent un certain poids dans la société. Alors la première vague, qui apparaît dès la fin du XVIIIe siècle, disons dans le contexte de la Révolution française, mais qui va trouver son apogée au début du XXe siècle, c'est ce qu'on a appelé donc le féminisme libéral ou égalitaire. Alors retenez égalitaire, parce que ça vous dit tout de suite quel était l'objectif de ce courant féministe, de ce premier courant. Sa revendication première, elle est simple, c'est tout simplement que l'on accorde aux femmes les mêmes droits qu'aux hommes. Alors dans l'ordre de l'éducation, dans l'ordre de l'emploi, de l'accès à l'emploi, des postes accessibles, mais aussi dans l'ordre de l'indépendance juridique ou le droit de vote, hein. Juste quelques données pour mémoire. En France, la femme a le droit de vote en 1944. Ça ne fait pas 100 ans. En France, ça n'est qu'à partir de 1920 qu'une femme mariée peut adhérer à un syndicat sans le consentement de son mari. Ça n'est qu'en 1965 qu'elle peut exercer une profession sans l'autorisation de son mari. Vous voyez, ce sont des éléments qui nous paraissent déjà très lointains, mais qui, en fait, dans l'histoire, sont récents. Donc la revendication première, elle est claire, acquérir les mêmes droits pour les femmes que ceux accordés depuis toujours aux hommes. Donc vous voyez, il y a un élan légitime, hein, de faire progresser de manière légitime et non pas rivale les droits de la femme. Le seul problème, c'est que ce féminisme égalitaire, qui avait en partie raison dans ses demandes, hein, il va se prolonger logiquement dans une sorte d'égalité qui va nier l'altérité. C'est-à-dire que pour être égale à l'homme, eh bien, la femme devient un homme. Elle voulait l'égalité des droits, mais cette égalité des droits se réalise très souvent au détriment de la personnalité féminine. Pour être égale à l'homme, pour être reconnue égale à l'homme, d'une certaine manière, elle devient un homme. Alors vous avez des expressions très concrètes de ça, hein, notamment la revendication des femmes à disposer de leur corps, à être déchargées du fardeau de la maternité si elles ne l'ont pas choisi. Vous voyez, c'est dans la logique directe de cette première vague du féminisme égalitaire qu'on voit apparaître tous les mouvements plaidant en faveur d'une sorte de réforme sexuelle, hein, dès le début du XXe siècle, revendication de la liberté sexuelle, puis de la contraception, puis dépénalisation de l'avortement, etc. qui fait que la femme est maintenant à égalité avec l'homme face à la liberté qu'elle a à l'égard de son corps. Ah oui, l'homme n'est jamais contraint malgré lui de porter un enfant, c'est la femme qui porte le poids. Alors la femme a voulu se libérer de ça. Conséquence de ce... Donc, je passe vite, hein, mais en conclusion sur cette première étape, il faut à la fois reconnaître l'effort positif, légitime, hein, qui a porté des fruits et qui a fait que la femme a acquis de manière légitime dans nos pays un certain nombre de droits qui n'ont peut-être que trop tardé à lui être accordés, une certaine reconnaissance sociale. Mais le problème, c'est que cette reconnaissance est souvent faite au détriment de la richesse de l'altérité et de la mise en lumière des qualités spécifiques de la femme. Au contraire, pour pouvoir prétendre à être chef d'entreprise, à être président, à être aviateur ou général d'armée ou je ne sais pas quoi, très souvent la femme laisse de côté ses qualités spécifiquement féminines pour tenir des postes d'homme, hein, entre guillemets. Ça, c'est la première phase. Je fais de manière un peu schématique, évidemment. Alors, c'est en réaction contre ce féminisme égalitaire que va se développer une deuxième étape, au contraire, un féminisme de la différence. Alors, ça, c'est plutôt dans les années 60. Alors, le principe de base est complètement différent. On n'est plus, dans l'idée d'acquérir les mêmes droits que les hommes, quitte à laisser de côté ses qualités féminines. On est au contraire dans le postulat de base que les hommes et les femmes sont fondamentalement différents, au point même de former comme deux univers parallèles qui ne se... On va le voir, hein, c'est l'excès, qui ont du mal à se rencontrer. La femme ne sera elle-même que si elle met premièrement en avant non pas ses droits, hein, d'être reconnue égale de l'homme, mais ses différences spécifiques, ses qualités qui la rendent complètement autre que l'homme. Vous voyez, c'est pas du tout la même logique. Donc la femme, là aussi, vous voyez un postulat légitime et positif au point de départ, hein. La femme doit être reconnue, respectée pour ce qu'elle est. Pas seulement parce qu'elle est devenue capable d'occuper les mêmes postes que les hommes, mais pour ce qu'elle est, elle, avec son cœur de femme et ses qualités féminines. Donc le postulat de base, c'est de dire elle n'a pas à se faire homme pour prétendre aux mêmes droits que les hommes, elle doit être reconnue pour ce qu'elle est. Or, depuis toujours, la société a été pensée par des hommes et pour des hommes. Donc la femme, elle survit comme elle peut dans un univers masculin, elle est pensée par des hommes et pour des hommes. Et donc il est grand temps aujourd'hui de faire naître et grandir un univers féminin, hein, qui va être parallèle à cet univers masculin dominant depuis toujours. Voilà un peu l'état d'esprit. Alors en France, vous avez une figure essentielle, c'est une personne qui était née en Belgique, hein, et qui a travaillé et rayonné en France, Luce Irigaray, vous avez son nom en bas de la première citation. C'est une femme brillante, un maître de recherche en philosophie au CNRS, docteur en linguistique, professeur d'université à Paris, psychanalyste. Vous voyez, une femme intellectuellement très brillante et qui a écrit des choses intéressantes. Alors, comme elle était docteur en linguistique, ses premiers travaux se sont intéressés à l'étude de la différence sexuelle à travers la langue. Vous avez un exemple tout simple en français. Dès que vous êtes dans un groupe, s'il y a un homme, vous dites « ils ». Ils se sont rencontrés, peu importe la majorité féminine, ou « ils se sont mariés ». C'est un homme et une femme. Et vous dites « ils » avec un pronom masculin. Alors, vous voyez, ce sont des petites choses comme ça, des indices dans la langue que Luce Irigaray a essayé de travailler pour développer son thème phare, hein, qui est que la langue, elle est le véhicule de la pensée d'une société, donc elle reflète un univers masculin, pensé par des hommes et pour des hommes, avec une domination de l'homme sur la femme, et donc le langage véhicule ça, et donc il est temps de modifier la langue, de modifier les comportements. Donc elle commence comme ça, en disant, comme linguiste, hein, que en fait, au point de départ, il y avait une langue des hommes et une langue des femmes différentes, et que en fait, la domination de l'homme sur la femme a entraîné petit à petit une domination d'un mode de langage sur l'autre, hein, et un oubli de la personnalité féminine qui se traduit dans un oubli dans la langue. Donc pour elle, un des chemins privilégiés pour sortir de ça, c'est d'abord que l'homme et la femme doivent reconnaître l'un l'autre leur altérité, plus que ça, leur incapacité à se connaître vraiment. Vous voyez, ils sont réellement différents, réellement irréductibles l'un à l'autre, et tant qu'il n'y a pas une reconnaissance de ce mystère qu'ils sont l'un pour l'autre, la femme ne sera jamais respectée pour ce qu'elle est. Vous voyez, féminisme de la différence, de l'altérité. Alors on peut lire rapidement la citation très intéressante que vous avez, hein, et tout est vrai. Hein. Hommes et femmes, nous avons des corps différents. Hommes et femmes nous engendrons de manière différente, en nous, hein, pour la femme, ou hors de nous, pour l'homme. Hommes et femmes, nous nourrissons les autres, plutôt de notre travail, pour l'homme, ou de notre corps, pour la femme. Hommes et femmes, nous aimons et nous nous aimons de façon différente, en nous ou hors de nous. Hommes et femmes, nous avons été portés et accouchés par notre genre. Ah bah oui, une petite fille naît d'une femme, ou par l'autre genre, un garçon naît d'une femme aussi. Maternés par notre genre ou par l'autre genre, ce qui constitue une différence importante dans la construction de l'identité. C'est très vrai, hein ? Je suis donc limitée par l'appartenance à un genre. Elle parle comme femme. Hein. Je suis limitée et eux par l'appartenance à un genre. Et il en va de même pour toi, homme. Tu ne peux en aucun cas être mon modèle. Vous voyez, ça c'est une critique un peu de la première phase du féminisme où finalement, en prétendant aux mêmes droits, l'homme était d'une certaine manière le modèle à atteindre pour la femme. Hein. Tu ne peux en aucun cas être mon modèle. Je ne suis et je ne serai jamais toi. Tu ne seras jamais mien. Ce rien d'appropriable ou cette différence insaisissable subsisteront toujours. Mais c'est grâce à eux que nous pouvons nous aimer et devenir co-créateurs ensemble. Mais il n'y a rien à redire dans cette citation. C'est beau, c'est magnifique, c'est vrai. Le problème, c'est que de nouveau, vous voyez, à chaque fois, on parle de quelque chose de bon et de vrai et que ça entraîne des excès. Vous voyez, on pousse ça à l'extrême. Et alors, c'est ce qui s'est passé. À partir du moment où on pousse ça jusqu'au bout, la femme pense différemment, elle parle différemment, elle voit la vie différemment. Le problème, c'est que on en reste finalement à une sorte d'altérité juxtaposée, vous voyez, où les hommes et les femmes ne se rencontrent plus. L'altérité est tellement valorisée que la communion n'est plus possible. Donc chacun, l'homme et la femme, reste isolés dans sa propre sphère. Et on a une sorte de séparation radicale qui s'institue entre deux mondes. Vous voyez, comme si pour la femme, le seul moyen d'exister, c'était de développer un univers féminin parallèle. Et donc elle se pense de manière autonome, différente, autre que l'homme, mais elle ne le rencontre plus. Donc à force d'être différent de moi, l'autre m'échappe. Définitivement. Alors de nouveau, voyez, est-ce que la femme peut être pleinement elle-même si elle ne rencontre plus l'homme, et est-ce qu'elle peut remplir son rôle dans la société si son univers à elle n'est qu'un univers parallèle, juxtaposé à cet univers masculin que la femme vient contrebalancer. De nouveau réaction contre ces excès du féminisme de la différence poussée à l'extrême. Parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Alors, vous avez de nouveau une réaction opposée, et donc on revient aux revendications premières d'un féminisme égalitaire, celui du début, mais on va le pousser à l'extrême. Vous voyez, au début, l'homme, la femme voulait les mêmes droits que l'homme, mais se faisait homme pour les acquérir. Deuxième phase, ils sont tellement différents qu'ils ne se rencontrent plus. Troisième phase, on va appeler ça le féminisme postmoderne. Finalement, pourquoi encore distinguer l'homme et la femme ? Finalement. Donc on est dans cette phase aujourd'hui, à force de vouloir que les femmes soient comme les hommes, pourquoi distinguer encore les deux ? aujourd'hui, on cherche à déconstruire tous les modèles identitaires traditionnels qui finalement enferment aussi bien les hommes que les femmes dans des identités sexuelles contraignantes qu'ils n'ont pas choisies. Et bien pourquoi je ne pourrais pas choisir qui je suis, ce que je veux être, un homme ou une femme, et d'ailleurs le choisir à mon gré, voire même en changer plusieurs fois dans ma vie. Et ça, c'est la vraie liberté, la vraie modernité, que chacun puisse choisir son genre. Là encore, vous voyez, je brosse à grands traits de manière très schématique. Évidemment, représentante de ce mouvement-là, Judith Butler, américaine, née en 56, qui a écrit de nombreux ouvrages sur la théorie du genre, qui ensuite a, bien sûr, gagné l'Occident. Donc l'idée, c'est qu'il faut aller jusqu'à déconstruire même le concept de maternité, de paternité, puisque tout ça, c'est finalement issu d'une tradition judéo-chrétienne, patriarcale, sur un modèle de famille traditionnelle fondée d'un homme, une femme et un enfant, mais dont finalement l'homme moderne est devenu suffisamment adulte pour pouvoir se libérer. Oui, on est dans ça. Alors je vous ai mis là aussi une ou deux citations intéressantes. Donc, d'Olivier Bonwayne, qui est un prêtre de l'Emmanuel, qui a donc travaillé beaucoup sur le mariage, sur le gender, et qui a publié un livre il y a quelques années, Gender, qui es-tu, et qui analyse le phénomène auquel nous assistons, et qui dit ceci. Donc on ne parle plus de procréation, concept trop adossé à l'illusion d'un dieu créateur, mais de reproduction, terme qui appartenait jusqu'ici principalement au monde des animaux, des objets. On évite d'employer des catégories comme père, mère, parentalité, maternité ou paternité, car celles-ci mélangent dans les représentations culturelles le sexe et le genre. La mère, en fait, n'est qu'une construction psychosociale, un rôle plus ou moins librement endossé. Il vaut donc mieux parler de fonction maternelle ou de maternalité, qui peut être exercée par un sujet de sexe féminin, neutre, masculin ou mouvant. Et comme ça, c'est mouvant. Plus radicalement encore, la maternalité, avec sa référence implicite à la paternalité, n'est-elle pas encore trop liée au gender hétérosexuel? Ne serait-il pas préférable d'utiliser le terme de parentalité? Ça, c'est vraiment neutre. On exclut que... Vous voyez, on essaie de gommer même la référence au masculin et au féminin, après avoir dit que le rôle paternel peut être rempli par une femme et le rôle maternel pourrait être rempli par un homme. Ah oui, mais ça sous-entend encore, vous voyez, qu'il y a un visage maternel, un visage paternel. Alors on va essayer même d'abolir ça en parlant de parentalité. Parce que abolir le fait qu'il y a un parent et un enfant, ça reste quand même difficile d'inverser les rôles entre le bébé et les parents. Mais voilà, parentalité neutre. Surtout plus de référence à une altérité homme-femme. Donc depuis des millénaires, la famille cache à tous sa véritable origine, le pouvoir de domination de la classe du sexe fort. Elle sécrète partout son mensonge, d'une origine soi-disant naturelle ou même divine, et donc seule autorisée. Et donc on va vraiment chercher à déconstruire tous les modèles familiaux traditionnels, comme si c'était... le chemin pour la femme d'acquérir une liberté et une reconnaissance nouvelle, mais finalement aussi pour l'homme, de choisir ce qu'il veut être, un homme ou une femme, une mère ou un père, ou en tout cas un parent, au sens neutre. Alors juste un petit constat du pape François, comment regardait-il la théorie du gender dans une... C'est pas un ouvrage théologique de fond, mais c'est dans une catéchèse sur la différence et la complémentarité entre l'homme et la femme. Il écrivait ceci, vous avez aussi la citation. Je me demande, donc là, vous voyez quelque chose à creuser théologiquement. Je me demande si ce que l'on appelle la théorie du gender n'est pas également l'expression d'une frustration et d'une résignation qui vise à effacer la différence sexuelle parce qu'elle ne sait plus s'y confronter. Ça serait comme une sorte de solution de facilité. Dans un monde où l'homme et la femme ne cessent de s'affronter, et de revendiquer des droits, de prétendre à une supériorité de l'un sur l'autre, d'être finalement dans la concurrence ou dans le conflit, mais finalement, effacer la différence sexuelle parce qu'elle ne sait plus s'y confronter. Vous voyez, une sorte de solution de facilité face à ce problème constant que représente depuis toujours la confrontation entre l'homme et la femme. Bah, s'il n'y a plus l'un et l'autre, vous voyez, on s'imagine, on s'illusionne et on pense que le problème va disparaître. On ne sait plus se confronter à la différence sexuelle. Oui, nous risquons de faire un pas en arrière. Ce qui nous est présenté comme l'âge adulte de l'humanité et le progrès, en fait, est-ce que ça n'est pas un pas en arrière, une régression ? Vous voyez, parler de reproduction au lieu de procréation, c'est bien une régression, un pas en arrière. L'annulation de la différence, écrit le pape, est en effet le problème et pas la solution. Donc ça, c'est juste, vous voyez, à mon avis, une piste de recherche intéressante. Alors, tout ce que je dis là, de manière trop rapide sur le gender, évidemment, ne doit pas nous faire oublier qu'il faut aussi peut-être reconnaître que le langage de l'Église, notre langage, a peut-être été souvent trop simplificateur. Vous voyez, il y a le noir et le blanc, l'homme et la femme, et tout ça dans des catégories bien distinguées, le vrai et le faux, le bien et le mal. Ce que je dis là de manière un peu rapide et lapidaire, évidemment, ne doit pas faire oublier le fait que dans la réalité, peut-être que pour une personne donnée, il n'est pas si simple, pas toujours possible, de se reconnaître pleinement dans l'une ou l'autre définition de l'homme et de la femme. Toujours un décalage entre la vérité telle que je peux l'énoncer, de manière théorique, dogmatique, et puis la situation concrète des personnes. Donc c'est évidemment pas un jugement après sur les personnes, mais l'Église est constamment confrontée, vous voyez, à ce décalage entre le discours de la théologie morale, dogmatique, qui affirme le bien, le mal, le vrai, le faux, et puis la dimension pastorale, d'accompagnement de la souffrance des personnes, de l'interrogation des personnes, de l'incapacité profonde d'un jeune à dire « mais oui, j'ai un corps d'homme, mais je ne me reconnais pas homme ». Et au plus profond de sa sincérité, de son sentiment, comment entendons-nous sa souffrance, son malaise, sa question ? Ça, c'est après une perspective évidemment pastorale. C'est toujours ça qui est délicat, comment tenir la vérité, le bien, le mal, la dire, la proclamer, et en même temps rejoindre l'autre dans ce qu'il vit, ce qu'il ressent, son histoire, ses blessures, etc. Donc je ne rentre pas plus là-dedans. Donc vous voyez, dans ce panorama des féminines, trois grandes phases, je vais dire, qui s'entraînent les unes les autres, c'est toujours comme ça dans l'histoire de l'Église pour tout, On va souvent il y a quelque chose de droit, et puis une déviation vers un excès, et alors en réaction contre un excès, un retour de balancier, un peu dans l'autre sens, et du coup de nouveau un excès, et puis un retour, une réaction dans l'autre sens, et on avance comme ça. Donc là, pour ce féminisme, on voit bien trois grandes phases qui sont finalement en réaction de l'une face aux excès de l'autre. Alors, je reviens maintenant plus à la question de féminisme, avec des guillemets, dans l'Église, dans la perspective chrétienne. Parce que là, c'était plus au niveau de toute la société. J'allais dire les objectifs fondamentaux du féminisme égalitaire. Vous voyez, une égalité de droit, de dignité, de la femme à l'égard de l'homme, qu'on voit dans tous les niveaux de la société aujourd'hui, une parité, il faut qu'il y ait le même nombre que de femmes dans le comité d'entreprise, le Sénat, le je ne sais pas quoi. Et bien évidemment, cette revendication fondamentale, on la retrouve dans l'Église. Alors je voudrais maintenant regarder spécifiquement comment se pose la place réelle de la femme dans l'Église, de sa participation aux instances de réflexion, de décision au sein de l'Église. Alors, à la fois dans son versant légitime, là où l'Église a encore certainement un chemin à parcourir, appelé de ses voeux par le pape Jean-Paul II, par le pape François aujourd'hui, avec déjà beaucoup d'efforts qui sont faits et de fruits. Il ne s'agit pas juste de faire des efforts pour coller à un modèle, mais de reconnaître, de reconnaître la nécessité de cette complémentarité du regard masculin et féminin au sein de l'Église. Donc là, tout un chemin est en cours. Mais ce féminisme, il a aussi dans l'Église un visage militant, revendicateur, qui se targue très souvent du nom de féminisme chrétien, mais qui ne l'est pas, puisque finalement il ne va pas dans le sens du profond dessein de Dieu, ni du bien réel de l'homme et de la femme. Alors ce visage revendicateur, souvent très critique à l'égard de l'enseignement de l'Église, conçu comme rétrograde, empêchant la femme de progresser, etc., il s'est vraiment focalisé contre Jean-Paul II, qui est peut-être le premier pape à avoir autant développé un enseignement positif sur la femme, mais qui lui a été en fait retourné dans la figure de manière complètement inversée. Donc, en gros, il y a eu des ouvrages entiers écrits par des féministes, hommes ou femmes d'ailleurs, se disant chrétiens, pour critiquer la pensée de Jean-Paul II sur la femme, en disant « oui, vous parlez de génie féminin, vous voulez donner plus de place aux femmes, mais en fait, c'est un discours qui endort les consciences et vous maintenez la femme dans sa servilité habituelle à travers un discours qui se veut valorisant, mais qui en réalité ne l'est pas du tout. » Voilà, en résumé, ce qu'on a pu dire à Jean-Paul II. En gros, quatre critiques essentielles, quatre domaines de critiques. D'abord, on a reproché à Jean-Paul II de fonder sa théologie de l'homme et de la femme sur la Genèse. Et c'est vrai, vous avez des catéchèses, vous savez, ça a été rassemblé dans un volume, un gros volume, Hommes et femmes, il les créa, qui fait des centaines de pages. Et j'allais dire, le point de départ de Jean-Paul II, qui a aussi été le nôtre la fois dernière, parce que c'est le point de départ normal, c'est le chemin normal de la théologie, de se fonder dans la révélation. Le point de départ de tout l'enseignement de Jean-Paul II, c'est la Genèse. Or, ce courant féministe revendicateur, aujourd'hui, justement, affirme, sans nuance, les récits de la Genèse ne peuvent pas servir de point de départ à la réflexion. Parce que, justement, ils sont eux-mêmes faussés. Ils sont issus, voyez, d'un milieu patriarcal de domination de l'homme sur la femme. Et donc, les récits de la Genèse, peut-être inspirés par l'Esprit Saint, mais écrits par des hommes, et par des hommes après le péché originel, donc des hommes marqués par cette domination pécheresse de l'homme sur la femme et ce sexisme patriarcal. Et donc on ne peut pas partir des récits de la Genèse pour réfléchir. Donc première, on sape à la base l'enseignement de l'Église en disant le fondement est faux. Il faut faire autrement, il faut partir de la vie, il faut partir du ressenti des personnes, etc. Ça c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, mais je ne le développe pas, la théalogie. J'ai déjà entendu parler de la théalogie. C'est plus la théologie, c'est la théa, avec une désinence féminine. La théalogie, elle ne part pas de la révélation, elle part du vécu des personnes, en particulier des femmes, évidemment. Donc, première critique, partir de la Genèse, alors que ce sont des textes eux-mêmes marqués par la domination masculine, le sexisme patriarcal. Deuxième critique, souvent présenté contre Jean-Paul II, présenter Marie, la Vierge Marie, comme un modèle de la femme. Alors ça, évidemment, là aussi, bien compris, c'est magnifique, mal compris, de manière réductrice, évidemment, ça a donné ceci, Marie est présentée à la femme comme une sorte d'idéal inaccessible de virginité, de pureté, dans laquelle la femme concrète d'aujourd'hui ne se retrouve pas. Là aussi, on peut répondre à cette critique, c'est-à-dire que présenter Marie comme la femme effacée, silencieuse qui reste à la maison et qui n'a aucune place dans la sphère publique, c'est une image très réductrice de Marie. C'est oublier le Magnificat, c'est oublier la présence de Marie au Cénacle auprès des apôtres, c'est oublier. Et donc, en tout cas, voilà, la Vierge Marie est un idéal qu'on nous impose, on ne s'y reconnaît pas. C'est véhiculer l'image de la femme comme une servante et servante du Seigneur, donc servante de l'homme, ménagère et silencieuse, etc. Donc on a beaucoup reproché ça à Jean-Paul II. Troisième critique, endormir les consciences avec un langage apparemment très positif. Hein, c'est Jean-Paul II qui parlait du génie féminin. Le génie féminin, de la valeur de la femme, l'importance de la femme dans la vie de l'Église, etc. Donc un discours très valorisant, mais en maintenant dans les faits, dans le concret des faits, une pratique androcentrique absolue, notamment en refusant l'accès au sacerdoce. Et donc on critique le décalage entre le discours positif et l'aspect absolument statique masculin d'une église cléricale qui continue jusqu'à aujourd'hui à refuser d'envisager l'accès des femmes au sacerdoce et donc à tous les postes importants liés au gouvernement, aux décisions, etc. Donc, je vais revenir après sur ce versant critique, hein, voir quels sont les lieux de confusion. Et puis quatrième versant des critiques, on reproche à Jean-Paul II de rester prisonnier d'une vision dépassée de la maternité. Et si vous lisez Mulieris Dignitatem, la lettre encyclique de Jean-Paul II en 87 sur la dignité de la femme, évidemment vous avez deux chapitres, c'est des chapitres centraux pour présenter la vocation de la femme, où de manière anthropologique, Jean-Paul II regarde la virginité et la maternité comme les deux versants anthropologiques majeurs de la vocation féminine. Alors on a reproché à Jean-Paul II en comprenant très mal ce qu'il disait, hein, de manière en ayant une lecture extrêmement réductrice de ses propos, hein, de se baser sur une sorte de déterminisme biologique en disant la femme est faite juste pour être la vierge pure ou la mère apportant des enfants dans la société. Vous voyez, un regard extrêmement matériel, hein, sur le mystère maternel qui n'était absolument pas le langage de Jean-Paul II. Donc vous pouvez trouver jusqu'à aujourd'hui très souvent les critiques à l'égard de l'enseignement de l'Église, enfin, pas seulement à l'égard de Jean-Paul II, mais à l'égard de l'enseignement de l'Église, se ramènent à l'un de ces quatre domaines. Alors je reviens avec vous sur le troisième, qui consiste donc à reconnaître un langage positif, mais à dénoncer une pratique discriminatoire au sein de l'Église, notamment, parce que c'est là-dessus que se cristallisent toutes les revendications, hein, sur l'accès des femmes au sacerdoce. Pour ne vous citer qu'un exemple récent, ridicule, mais qui a fait beaucoup de bruit, vous avez certainement entendu parler au mois de mai, je l'ai même imprimé, je sais que ça valait pas la peine de l'imprimer en 40 exemplaires, mais j'en ai imprimé un, donc si ça vous intéresse, vous pourrez toujours jeter un coup d'œil dessus. C'est la candidature d'Anne Soupa à l'archevêché
de Lyon. Oui.
Alors, évidemment, c'est que j'ai perdu la feuille, mais c'est très intéressant parce que c'est évidemment pas un phénomène isolé. Voilà. Donc c'était fin mai 2020, vous le trouvez sur internet, hein, pourquoi je suis candidate à être archevêque de Lyon, avec toutes les raisons qui, selon elle, rendent légitime sa démarche, avec évidemment la dénonciation d'une église. Je vous lis juste deux ou trois lignes.
Est-ce qu'elle est théologienne?
Alors elle se dit bibliste, théologienne. Voilà, je ne sais pas si on peut encore dire théologienne sans mettre des grands guillemets, quelqu'un qui bafoue les vérités de la révélation, mais enfin en tout cas c'est une femme qui a un grand rayonnement, hein, qui a été pendant 8 ans présidente de la conférence des baptisés. Bon, tout ça, vous voyez, c'est une mouvance plus protestante, hein, qui se dit catholique encore, et elle est présidente actuelle de un comité qu'on appelle le comité de la jupe, et rien que le nom est assez représentatif, mais il faut entendre, vous voyez, il faut entendre les questions qu'elle pose. Elle a elle-même expliqué que l'aspect très... je pense que sa demande est sérieuse, mais que sa démarche derrière vise surtout à faire réfléchir. En disant, il est vrai que la femme dans l'Église n'a pas encore la voix, l'accès à telle ou telle responsabilité dans lesquelles elle pourrait apporter beaucoup et dont l'Église a vraiment besoin que la femme apporte davantage. Donc elle veut surtout faire réfléchir sur le chemin qui est encore à parcourir. Le problème, c'est qu'elle discrédite son propos en se focalisant sur l'accès au sacerdoce, comme si le sacerdoce et le gouvernement étaient bloqués. Et donc, évidemment, théologiquement, une confusion entre le gouvernement et l'ordre sacramentel, donc la dimension du sacrement. Donc, je voudrais revenir un petit peu avec vous là-dessus, parce qu'on a encore très souvent des questions légitimes de nos contemporains, et voire même de bon nombre de chrétiens, et qu'on n'est pas toujours équipé théologiquement pour répondre. Donc, je vous rappelle un peu les documents de l'Église qui existent, et puis les arguments qui me semblent les plus importants pour faire aussi notre propre réflexion. Donc en 1976, la Congrégation pour la doctrine de la foi, donc la CDF, donc je vous ai mis, c'est en page 2, vous avez un long extrait avec les références. Donc 1976, un long document donc approuvé par le pape Paul VI, qui a donné tous les arguments pour expliquer que les femmes ne pouvaient pas être ordonnées prêtres ni diacres. Enfin, c'était surtout sur l'ordination sacerdotale. Donc dans cette déclaration, vous avez 6 raisons majeures qui sont données. Personnellement, je regrette beaucoup qu'il faille attendre la 5e pour avoir la vraie raison. Enfin, vous voyez, parce que du coup, c'est comme si le document affaiblissait son raisonnement, parce que tous les premiers chapitres ne sont pas... je vous rappelle rapidement les 4 premières raisons, mais je ne les ai pas imprimées. Donc d'abord, parce que c'est la tradition, on a toujours fait comme ça. Alors, évidemment, si vous dites ça, aujourd'hui, ça... Et en fait, les 4 premières raisons n'en font qu'une. Vous voyez, elles sont toutes basées sur le même fait. Donc, un, le fait de la tradition. 2, l'attitude du Christ. Le Christ n'a choisi que des hommes. Oui, d'accord, mais justement, il a fait ça parce que dans l'époque de son temps, on ne pouvait pas choisir les femmes. Donc, l'objection est vite contrée. 3e raison, les apôtres, la pratique des apôtres. Oui, évidemment, ils ont fait comme Jésus. Donc, Jésus n'a fait que des hommes, n'a choisi que des hommes. Et puis, on n'a choisi que des hommes parce que c'était la mentalité de l'époque et donc de la tradition. Donc, ouais. Et puis, 4e raison, la valeur permanente de l'attitude de Jésus et des apôtres. Vous voyez, on tourne toujours autour du même truc. Mais ce n'est pas la vraie raison théologique, ça. Ça a du poids, et de fait, je ne veux pas du tout minimiser le poids de ce qu'a fait Jésus et le poids de la tradition. Mais si la tradition a fait comme ça à la suite de Jésus qui lui-même a fait comme ça, c'est parce qu'il y a une raison théologique de fond. Et c'est celle qui est développée au numéro 5. Alors il faut arriver jusque-là, vous voyez, pour avoir un peu un argument à vraiment présenter comme une réponse aujourd'hui. Alors le numéro 5, il s'appelle le sacerdoce ministériel à la lumière du mystère du Christ. Et puis le numéro 6, le sacerdoce ministériel dans le mystère de l'Église. Donc c'est ça le cœur du document. C'est cette page-là qu'il faut vraiment travailler. Alors, je vous en ai imprimé de très larges extraits. Et je voudrais peut-être... je peux parler encore une dizaine de minutes, puis après on fera un quart d'heure de pause, puis il nous restera une heure. Donc vous pouvez prendre donc à la page 2, et je parcours rapidement quelques points forts de ce texte. L'enseignement constant de l'Église proclame que l'évêque ou le prêtre, dans l'exercice de son ministère, n'agit pas en son nom propre, une persona propria. Il représente le Christ, il rend présent. Il représente le Christ qui agit par lui, alors là j'ai fait une petite coupure, et en particulier, de manière éminente et selon un mode tout particulier dans la célébration de l'Eucharistie. Le prêtre qui seul a le pouvoir de l'accomplir agit alors non seulement par l'efficacité que lui confère le Christ, mais in persona Christi, tenant le rôle du Christ, au point d'être son image même lorsqu'il prononce les paroles de la consécration. Le sacerdoce chrétien, vous voyez, ça c'est la clé, est de nature sacramentelle. Dans sacrement, vous avez l'idée du signe. Sacrement, c'est un signe efficace. Toute la théologie sacramentaire derrière. Donc vous voyez, la vraie raison, c'est pas que Jésus a fait comme ça, parce que dans la culture de son temps, on a toujours fait comme ça, et que donc les apôtres ont fait comme ça, et qu'il faut toujours faire comme ça, parce qu'on a toujours fait comme ça. La vraie raison, c'est que le sacerdoce chrétien est de nature sacramentelle. Il doit donc, entre autres, remplir une valeur de signe. Et le signe, il est efficace, alors bien sûr en raison de l'ordination reçue, mais il est efficace au sens, j'allais dire, de base, parce qu'il est parlant. Vous voyez, quand vous avez un signe, il faut qu'il soit compréhensible. Pensez, au panneau, vous avez un panneau avec une flèche qui vous montre qu'il faut aller à gauche, vous comprenez qu'il faut aller à gauche parce que le signe est parlant. Donc il y a quelque chose de ça dans le sacrement. Le prêtre est un signe dont l'efficacité surnaturelle provient de l'ordination reçue, mais un signe qui doit être perceptible et que les croyants doivent pouvoir déchiffrer aisément. Toute l'économie sacramentelle est fondée sur des signes naturels, sur des symboles inscrits dans la psychologie humaine. Je passe quelques lignes. Il n'y aurait pas donc cette dimension du signe facilement déchiffrable, il n'y aurait pas cette ressemblance naturelle qui doit exister entre le Christ et son ministre si le rôle du Christ n'était pas tenu par un homme. Et autrement, on verrait difficilement dans le ministre l'image du Christ, car le Christ lui-même fut et demeure un homme. C'est ce que développe le paragraphe suivant. L'incarnation du Verbe s'est faite selon le sexe masculin. Pourquoi ? C'est pas parce que c'est mieux ou parce que c'est le sexe fort, et c'est parce que, de nouveau, on est dans toute l'économie de la révélation, où, je vous l'ai rappelé encore tout à l'heure, le symbolisme nuptial est par excellence celui que prend le langage biblique, que prend l'Esprit Saint, inspirant la parole de Dieu, pour exprimer le rapport de Dieu, le rapport, l'engagement d'alliance de Dieu à l'égard de son peuple, à l'égard de l'Église, à l'égard de toute la création. Le Christ est époux de l'Église. Pour qu'il soit époux, pour que le signe soit facilement déchiffrable, il faut qu'il soit un homme. Il s'incarne dans un corps d'homme. Il agit, il pense, il parle comme un homme. Pas parce qu'il ignore ou qu'il méprise la deuxième moitié de l'humanité qui est constituée des femmes, mais parce que le signe de l'homme et le signe de la femme sont deux signes différents. Et que si la femme prétend remplir la place du signe de l'homme, non seulement elle affaiblit le signe que doit être le signe masculin, mais elle passe à côté de sa vocation, et c'est pour ça que je reparle ici de ce signe sacramentel, rempli par le prêtre qui agit une personne à Christi, c'est parce qu'il y a aussi un signe de la femme. Rendre visible dans l'Église, on continuera tout ça de manière détaillée tout à l'heure, rendre visible dans l'Église et dans le monde ce signe de la femme qui est le signe de la réponse théologale de l'Église, du peuple d'Israël, de la création, à son Créateur. Le signe de la femme, c'est le signe de la réponse d'amour. Donc si l'un veut prendre la place de l'autre, vous voyez, toutes les cartes sont brouillées. C'est pas qu'il y en a un qui est supérieur ou qui a des capacités ou des compétences supplémentaires et qu'une femme ne pourrait pas être prêtre parce qu'elle est pas, elle saurait pas lire le missel. C'est pas de cet ordre-là. On est vraiment d'abord dans l'ordre d'un signe qui court dans toute la révélation et qui exprime théologiquement non seulement ce que Dieu veut vivre avec l'homme, mais aussi comment l'homme est responsable à l'égard de la femme d'être ce signe du Christ, c'est-à-dire du don de l'époux qui se donne pour son Église, et que la femme est responsable pour tous, hommes et femmes, d'être ce signe, donc je veux dire signe au sens, vous voyez, d'une exhortation pour tous à le devenir, signe de cette réponse théologale de l'épouse à l'amour de l'époux. Voilà comment il faut entrer, j'allais dire, dans ce régime sacramentel. Vous voyez, on est dans un tout autre ordre de réflexion que celui de la revendication de droit. Le régime sacramentel n'est pas de l'ordre du droit. S'il y a un droit, il est du côté du sacerdoce baptismal. Le baptisé a droit à recevoir, de la part des ministres, de la part de l'Église, tout ce qui est nécessaire à sa vie chrétienne, à la croissance de sa vie théologale et à la nourriture de sa vie théologale, notamment par les sacrements, mais pas que, hein, aussi par l'enseignement. Donc j'allais dire, le domaine des devoirs, il est plutôt du côté de la hiérarchie, qui a des devoirs, et non pas d'abord des droits, mais des devoirs à l'égard du peuple de Dieu. La hiérarchie, le ministère sacré, hein, les clercs ont le devoir, c'est pas premier, hein, ils ont d'abord la responsabilité d'être signe du Christ bon pasteur qui se donne par amour pour son Église. Mais ce qui implique des devoirs, de nourrir le peuple de Dieu de tout ce dont il a besoin dans sa marche vers le ciel. Alors par l'enseignement, par l'accompagnement spirituel, par les sacrements, etc. Et du côté du sacerdoce des baptisés, dont la femme est un signe éloquent, c'est d'abord de ce côté-là que se situent les droits. Vous voyez, donc on pense souvent que la femme aurait davantage de droits si elle pouvait être prêtre, mais en fait, le baptisé et la femme, évidemment, elle a tous les droits. Elle a tous les droits de recevoir de la part du ministère sacré ce qui lui est nécessaire en vue de la sainteté. Le véritable droit, il est là. Vous voyez, le renversement un peu de regard que ça entraîne. Donc l'incarnation du Verbe s'est faite selon le sexe masculin. Pourquoi ? La fin du paragraphe le dit. C'est en harmonie avec l'ensemble du dessein de Dieu, tel que lui-même l'a révélé, dont le centre est le mystère de l'Alliance. Le salut offert par Dieu aux hommes, l'union à laquelle ils sont appelés avec lui, l'Alliance, en un mot, revêt dès l'Ancien Testament, chez les prophètes, la forme privilégiée d'un mystère nuptial. Le peuple élu devient pour Dieu une épouse ardemment aimée. Le Christ est l'époux, l'Église est son épouse, qu'il aime parce qu'il l'a acquise par son sang et l'a faite glorieuse, sainte et sans tache, et il en est désormais inséparable. C'est pourquoi on ne peut négliger le fait que le Christ est un homme, etc. Vous voyez, il en va de la reconnaissance de l'importance de ce symbolisme pour l'économie de la révélation. Alors, le numéro 6, le sacerdoce ministériel dans le mystère de l'Église, donc ça c'est aussi très intéressant, hein. Les femmes qui expriment leur requête du sacerdoce ministériel sont certes inspirées par le désir de servir le Christ et l'Église. Vous voyez, il y a quelque chose de normal, il y a un désir légitime. On voit dans le ministère sacré un lieu éminent de service de l'Église. La femme, elle aussi, légitimement, veut servir l'Église, de manière plénière. Alors pourquoi pas par ce sacerdoce ministériel, hein. Donc, il n'est pas étonnant, donc, ça commence par le document reconnaît, hein, qu'il est normal que la femme porte un désir semblable dans son cœur, et notamment dans cette époque moderne, hein, au moment où elles prennent conscience des discriminations dont elles furent l'objet. Elles en viennent à souhaiter le sacerdoce ministériel lui-même. C'est normal que cette revendication apparaisse, c'est rien d'étonnant. Il ne faut pas oublier cependant que le sacerdoce ne fait pas partie des droits de la personne, mais relève de l'économie du mystère du Christ et de l'Église. La charge sacerdotale ne peut devenir le terme d'une promotion sociale. Aucun progrès purement humain de la société ou de la personne ne peut par lui-même y donner accès. Cela est d'un autre ordre, hein, l'ordre de la révélation, de l'économie sacramentelle. Il nous reste donc, vous voyez, parce qu'une fois qu'on a dit ça, ça ne suffit pas. Ah oui, on peut comprendre alors que le dessein de Dieu est celui-là, mais attention, l'Église a réellement encore un immense chemin à parcourir pour que l'homme et la femme puissent ensemble, au cœur même de l'Église, et comme baptisés, hein, en laissant de côté la question de l'économie sacramentelle et des ministres ordonnés, la femme a réellement une place, un rôle absolument vital dans l'Église, qui pour l'instant ne fonctionne encore peut-être qu'à très 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 petit régime. Donc il y a encore réellement un chemin à parcourir. Mais ça n'est certainement pas celui, vous voyez, d'une revendication du sacrement de l'ordre par la femme. Parce que ça va contre le bien de tous, et y compris contre son bien à elle. Ça va contre l'économie de la révélation. Par contre, voilà, qu'est-ce qui reste à faire ? il nous reste à mieux méditer la vraie nature de cette égalité des baptisés, qui est une des grandes affirmations du christianisme. L'égalité n'est point identité, en ce sens que l'Église est un corps différencié où chacun a son rôle. Les rôles sont distincts et ne doivent pas être confondus. Ils ne donnent pas lieu à la supériorité des uns sur les autres. Ils ne fournissent pas prétexte à la jalousie. Le seul charisme supérieur qui peut et doit être désiré, c'est la charité. Les plus grands dans le royaume des cieux ne sont pas les ministres, mais les saints. Ah, il y a sûrement des saints ministres, hein, mais ils sont saints, ils se sont sanctifiés par leur ministère parce que c'était leur vocation. Mais le plus grand dans le royaume de Dieu, c'est le saint. Donc voilà ce qui nous restera un peu à essayer d'ébaucher dans la deuxième heure, évidemment d'une manière beaucoup trop rapide, hein. Ça serait de creuser ce que pourrait être ce nouveau féminisme dans l'Église, hein, quels seraient les chemins concrets, hein, que l'Église peut encore parcourir, j'allais dire non pas pour donner à la femme de nouveaux droits, parce que si on parle comme ça, on est encore dans un langage, vous voyez, de revendication, mais pour tirer profit au très grand sens du terme, hein, pour se nourrir davantage de ce que Jean-Paul II appelait le génie féminin, hein, de ce que les femmes peuvent apporter pour le bien de tous dans l'Église et dans la société. Je vais m'arrêter là, je vous rappelle juste, hein, je n'ai pas imprimé parce que ça ferait des pages et des pages, mais je vous donne juste quelques références. Jean-Paul II lui-même a parlé, hein, il a employé l'expression d'un nouveau féminisme. Vous avez surtout deux passages importants, si vous voulez les reprendre personnellement. Vous avez donc Mulieris Dignitatem au numéro 10. Donc, il y a une vingtaine de lignes, je vous en lis juste deux. Non, je ne vais pas lire, je vais lire l'autre. Donc vous avez Mulieris Dignitatem 10, et puis vous avez l'encyclique Evangelium Vitae au numéro 99. Où là, Jean-Paul II commence en disant « Pour obtenir ce tournant culturel en faveur de la vie, la pensée et l'action des femmes jouent un rôle unique et sans doute déterminant. » Evangelium Vitae 99. Il leur revient, donc il revient aux femmes, hein, évidemment il y a quelque chose que les hommes ne feront pas à la place des femmes. Il leur revient de promouvoir un nouveau féminisme, vous voyez, avec des guillemets dans le document de Jean-Paul II. Qui, sans succomber à la tentation de suivre les modèles masculins, sachent reconnaître et exprimer le vrai génie féminin dans toutes les manifestations de la vie en société, travaillant à dépasser toute forme de discrimination, de violence, d'exploitation, etc. Donc, je veux dire, travailler à dépasser toute forme de discrimination, de violence, ça n'est que le premier pas. Et, je veux dire, c'est une sorte de réparation d'une injustice. Mais ça ne suffit pas encore. Une fois qu'on a réparé une certaine injustice, il s'agit encore de mettre positivement en valeur tout l'apport que les femmes pourraient apporter dans l'Église et la société et que peut-être elles n'apportent pas encore ou pas encore assez. Donc, Evangelium Vitae 99 continue. Hein, de nouveau, vous avez une vingtaine de lignes très, très belles que je vous invite à reprendre. Voilà, on va faire donc une pause jusqu'à 10h30. Et puis, il nous restera ensuite une heure.